Bonjour Clément Cogitor.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste et artiste contemporain. Vous exposez au BAL à Paris votre dernière œuvre, Braguino ou La communauté impossible. Cette œuvre raconte l'histoire d'une communauté, les Braguines, qui vivent au fin fond de la taïga sibérienne à 700 km de toute présence humaine. Les Braguines espèrent vivre en paix, mais pourtant, quelque chose ne fonctionne pas.
Alors Sacha Braguine, qui est le pionnier, le père fondateur de cet endroit, voulait construire une sorte de communauté utopique pour sa famille, c'est-à-dire de vivre en autarcie dans un endroit complètement coupé du monde. Enseigner ce qu'il avait enseigné à ses enfants, vivre de chasse et de pêche. Et ça a fonctionné. Pendant 15 ans, c'était cet endroit qui est a priori un des endroits les plus paisibles que j'ai vu dans ma vie, une sorte de petit paradis où les enfants passent leur journée à jouer dans la forêt, on vit de chasse et de pêche, toute la forêt fait vivre les familles. Et un jour, une deuxième famille s'est installée. Au moment où ils sont installés, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas fonctionner. Donc ils ont commencé à construire des barrières. Ils ont commencé à se partager les territoires de chasse, à s'empoisonner les chiens, à avoir d'abord une sorte de guerre de voisins. Et petit à petit, c'est un conflit de plus en plus profond et de plus en plus idéologique qui fait que ces deux familles vivent toutes les deux au bout du monde, de chaque côté d'une barrière, ne se parlent pas. Les hommes sont armés et chacun pense que ça va dégénérer en conflit armé.
Sacha Braguine, dans votre film, parle des corrompus qui viennent troubler l'existence de sa communauté, qui viennent troubler son existence à lui. Clément Cogitor, ces corrompus, c'est qui, finalement ?
Il utilise le mot corrompu parce qu'à la base, c'est des gens qui, pour arriver jusqu'ici, procèdent par corruption. C'est-à-dire qu'on peut arriver par là uniquement par hélicoptère. Et donc, en distribuant des billets à droite à gauche, ils arrivent à détourner les hélicoptères de l'État, qui sont là pour les militaires ou les scientifiques, et à se faire déposer dans ces endroits pour chasser du bétail, du gibier à l'arme automatique, ou pour récupérer des terres ou du pétrole. Ce mot-là, dans sa bouche, ça recouvre toutes les personnes qui arrivent avec des armes ou de l'argent dans un désir de posséder, de s'emparer de la taïga qui, lui, l'a fait vivre.
Il y a une scène qui est assez marquante dans le film et qu'on voit aussi ici à l'exposition. Les adultes de la communauté vont chasser un ours, ils vont lui couper entre autres les pattes arrière. Et un petit peu plus tard dans votre film, on retrouve ces pattes qui sont au pied d'une petite fille de la communauté des Braguines. Elle est en train de jouer dans le sable, elle a une petite robe de princesse et ses chaussures, c'est en fait de grosses pattes d'ours. Est-ce que c'est une scène qui vous a marqué ?
Oui, c'est une scène qui m'a marqué, d'autant plus que la petite fille a vraiment, elle est vêtue d'une robe de princesse rose. En soie, ou en tout cas une matière comme ça, très belle, presque comme une princesse de conte de fées. Et puis elle a ces énormes pattes d'ours au pied, qui sont les chaussons que lui a offert son père. Dans la manière dont on les voit qui chassent l'ours et dont il le découpe, on comprend le rapport de Sacha au gibier ou aux ressources, c'est-à-dire que rien n'est perdu. En gros, il enterre que les viscères.
Et dans votre film, on n'arrive pas vraiment à savoir si la communauté dans laquelle vivent les Braguines, c'est une utopie ou au contraire une dystopie finalement. Au début du film, on a l'impression qu'ils sont dans un monde merveilleux, dans la forêt, qu'ils arrivent à vivre comme ils l'entendent. Et puis plus le film avance, plus l'exposition avance, plus on se rend compte que finalement tout n'est pas si rose et au contraire, il y a une part assez obscure dans ce que vous avez raconté.
Complètement. D'abord, quand on arrive dans les premières séquences ou premières images de l'exposition, on a l'impression d'arriver dans un endroit magique, paisible, une sorte de nature idyllique, des enfants magnifiques, avec un regard incroyable. Et puis petit à petit, on comprend que les choses ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être, qu'il y a un conflit. Et on comprend qu'il est profond, qu'il est grave et qu'il est dangereux. Et plus le film avance, plus on comprend que ce conflit va finir, en tout cas moi c'est ce que je me raconte, va finir par soit les chasser, soit les faire disparaître. C'est une vraie énigme de savoir comment les enfants vont survivre à ce conflit ou le résoudre. L'idée qu'il y aura une fin heureuse à cette histoire, ça peut reposer que sur les enfants. Et comme les enfants sont contaminés aussi par le récit, les peurs, les conflits des adultes, c'est pas trop, je pense, le chemin que ça va prendre.
Clément Cogitor, après avoir vu votre œuvre, on se demande si finalement, et depuis la nuit des temps, l'enfer, ce n'est pas les autres. C'est votre avis ?
Moi, je ne crois pas que l'enfer, ce soit les autres. J'essaie juste de comprendre pourquoi et comment on n'arrive pas à vivre ensemble. C'est comme si je prenais un petit microcosme, quelques personnages dans un petit endroit, d'essayer de comprendre le mécanisme d'une communauté humaine, comment ça se construit, là où ça échoue, et là où la communauté disparaît, et face à l'altérité, ça la menace et ça la fait disparaître.
Merci Clément Cogitor d'avoir répondu à mes questions. À bientôt.
Avec plaisir, merci à vous. À bientôt.